On a la chance de recevoir cet après-midi l'auteur d'un livre hyper intéressant qui va bien sûr grandement nous intéresser chez nous. C'est « Les vrais visages du drame de Chapais il y a 40 ans ». On comprendra très bien que c'est un ouvrage concernant la dure épreuve qu'a connue Chapais. Madame Thérèse Villeneuve, docteur en travail social, est au bout du fil. Bonjour Madame Villeneuve.
Bonjour Monsieur Martel.
Dites-moi, à prime abord, qu'est-ce qui vous a inspiré, qu'est-ce qui vous a donné le goût d'écrire sur le drame de Chapais?
Bien, après l'incendie du 1er janvier 1980, l'Hôtel-Dieu de Montréal a été désigné pour ouvrir un centre de traitement des grands brûlés. Alors, je me suis mis à m'intéresser à cette problématique-là tellement que j'ai voulu aller voir les survivants du feu de Chapais. Mais ça a été très long avant que je réalise mon projet. Dans les années 90, je me suis inscrite au doctorat à la fin des années 90. Et ensuite, au début des années 2000, je suis allée faire les entrevues à Chapais et dans toutes les villes où les gens étaient déménagés, parce que beaucoup de gens ont quitté cette ville depuis que la mine est fermée.
Quel a été, même si vous avez, dans le fond, rencontré les gens plusieurs années après le drame, quelle a été votre première constatation? Parce que j'imagine qu'il y a une constatation qui rejoint toutes ces victimes-là.
Bien, ce qui m'a surpris beaucoup, c'était à quel point les gens n'avaient pas pu en parler, n'avaient pas pu s'exprimer, même après plus de 20 ans. Alors, les vannes se sont ouvertes avec mon passage. Parce que c'est bien connu qu'après une tragédie, les gens se taisent, ils doivent passer à d'autres choses. Il y a une consigne qui dit « on parle plus de ça, on pense plus à ça ». Puis la consigne avait tellement été forte à Chapais que c'était encore comme ça. Les gens avaient jamais échangé dans les milieux de travail, très peu dans les milieux familiaux. Alors, il y avait beaucoup à faire pour les aider à se libérer de ces souvenirs-là et de ces blessures.
Dites-moi, qu'est-ce qui fait que les gens se referment comme ça après une telle tragédie?
Bien, c'est connu dans la littérature qu'après environ un mois ou deux, on dit « parlons plus de ça, parlons plus de ça ». Il faut oublier, mais il faut que les milieux de travail, entre autres, ou les milieux familiaux soient aidés à en parler pour faire le deuil. Alors, dans les milieux de travail, vu qu'à Chapais, il n'y a pas beaucoup d'employés, il y en a plus maintenant que dans le temps. Bien, là, on continue à travailler, on fait comme si de rien n'était. On a demandé une surcharge aux gens, mais après ça, comment ils se sont sentis? Par exemple, les pompiers qui se sont occupés de la morgue temporaire, qu'est-ce que ça leur a fait vivre et quels souvenirs traumatiques ils en ont? Bien là, on s'en est pas beaucoup soucié. Un peu quand même le service de sécurité d'incendie, mais pas plus que ça. C'était la même chose partout, aussi bien avec les soignants. On continue à travailler, puis on parle plus de ça. Alors, ça a été mis de côté.
Mais j'imagine que ces gens-là traînent ça toute leur vie. Pour eux, c'est difficile de fonctionner. Est-ce que on peut pas rattraper le passé?
Bien, ils ont fini par fonctionner à la longue, mais on reste avec des blessures qu'on pourrait régler, comme la culpabilité du survivant. Quelqu'un qui se dit « c'est de ma faute si mon ami est mort, je lui avais payé son entrée 5 $, alors si j'avais pas payé l'entrée, il serait pas mort ». Puis la personne cultive ce drame-là intérieurement, alors que d'autres aussi, ils vivaient la même chose. Mais quand on peut pas mettre en commun, on finit par penser qu'on est les seuls à se sentir comme ça quand c'est courant, ce genre d'émotion-là de culpabilité après une tragédie. Alors, c'est un peu comme ça, les gens qui se disent « Pourquoi moi, j'ai vécu, puis ma meilleure amie est morte alors qu'elle avait des enfants, puis moi, j'avais pas d'enfants. » Alors, si on peut se libérer de ces fausses croyances-là, bien, on a la paix. On se dit « Bon, c'est arrivé par hasard, dépendamment où est-ce qu'on était dans la salle, on a vécu on a survécu ou on est mort. C'est une chance qu'on a eue, mais on peut pas avoir d'autres explications que ça. » Alors, il y aurait moyen de se libérer, de se sentir moins mal avec ces souvenirs-là.
Ouais, vous parlez du principe de rester fort, de pas montrer de faiblesse, ça aussi, ça joue beaucoup.
Oui, ça joue beaucoup et les dirigeants ont un rôle à jouer pour amener les victimes de tragédie à aller chercher de l'aide, que c'est pas d'être faible que d'avoir besoin de se faire soigner. Alors, dans ce temps-là, en 1980, c'était pas connu les mesures d'urgence, comme ça l'est maintenant, que ça fait partie de la loi. Mmh. Puis on envoie de l'aide rapidement. puis aussi le stress post-traumatique qui a été mis dans les diagnostics de santé mentale en 1980. Alors, aucune des victimes n'a été considérée comme étant victime de stress post-traumatique, même qu'il y a des gens qui ont demandé de l'aide pour les victimes d'actes criminels, qui ont ouvert des dossiers, mais que ça a été carrément refusé en disant « Non, votre cas est pas assez sérieux. On tient pas compte de la douleur, de la souffrance morale et de la détresse. C'est juste les blessures physiques qui sont considérées. » Alors, ça a beaucoup évolué. Maintenant, on regarde de façon plus large les impacts psychologiques sur les gens que dans le temps.
Oui, oui. Et Dieu sait qu'il y a énormément de familles qui ont été touchées parce qu'il y a eu 48 victimes, mais également les gens alentour. La communauté au complet a été touchée. Là.
Ah oui, ça a touché des milliers de personnes. Mais il ne faut pas se décourager. Quand arrive un événement comme ça, il faut garder l'espoir qu'un jour, on va se sentir mieux. C'est ça que j'ai voulu illustrer avec tous les exemples des témoignages qui m'ont été donnés. Il faut être persévérant, il faut être patient, puis à la longue, on finit par retrouver la joie de vivre, le bonheur, la vie continue.
Ouais,
ce qu'on pensait qu'elle allait pouvoir jamais s'atténuer, s'atténue petit à petit.
Ouais.
Il faut pas se décourager entre-temps.
Dites-moi, ça a quand même, malgré tout, on y retrouve des choses positives à l'intérieur de ce drame-là, parce qu'il y a eu l'avant, mais il y a aussi l'après-chapelle dans le monde de l'incendie, là.
Tout à fait, parce que dans le temps, les lois pour la sécurité dans les lieux publics ne touchaient pas suffisamment les édifices construits. Alors, cette salle-là, de ce lieu-là, de la salle Opamiska, avait été changée probablement avec une autorisation, mais de gens qui, à l'époque, n'étaient pas toujours qualifiés pour ce faire. Alors, les associations d'architectes et de pompiers ont revendiqué des lois avec des dents là, pour qu'on ne fasse pas n'importe quel changement au lieu. Et aussi, on a donné plus de responsabilités aux pompiers pour aller faire des inspections, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Alors, tout ça a fait l'objet de codes de sécurité dans les lieux publics qui sont vraiment importants au Québec et qui font que tout le monde est mieux protégé depuis 1980.
Non, mais c'est ça, c'est important. Donc, les lois ont été revues. Maintenant, on présente même les sorties de secours lors d'événements aux gens. Donc, c'est un gros avancement, là.
Oui, tout à fait. Puis aussi, on ne peut pas garder des nappes de papier sur les tables. On ne peut pas avoir de sapinage naturel à l'intérieur des édifices. Et aussi, on ne peut pas modifier des édifices impunément, comme ça avait été fait à cette salle-là, là, qu'on a bouché toutes les fenêtres.
Oui.
C'est ce qui a occasionné que le feu a pris avec beaucoup plus d'ampleur, plus rapidement, puis que les gens n'ont pas eu le temps de sortir.
Ben, j'ai malheureusement pas eu le temps de mettre la main sur votre livre et de le lire, mais je sais que ça va. J'ai très hâte de le faire et je sais que ça va intéresser beaucoup de gens de chez nous, parce qu'il y en a même qui l'ont déjà lu. Madame Villeneuve, merci beaucoup d'avoir pris quelques instants pour nous parler, puis merci beaucoup de vous être arrêtée sur cet événement qui a marqué l'histoire de notre région.
Je sais pas pourquoi, j'ai eu comme une mission, il fallait absolument que j'aille à Chapin, même à l'Université de Montréal, on me disait « qu'est-ce que tu vas aller faire là? » J'avais même pas la liste des noms. Je partais de zéro, mais j'avais comme un sentiment que je me devais d'aller là. C'est vrai que moi, je viens du lac Saint-Jean, puis ça m'avait touché indirectement.
Ben, je pense que votre épreuve, votre œuvre va toucher également beaucoup de gens. Merci beaucoup de vous être arrêté sur cet événement, puis d'avoir pris quelques instants pour nous parler. Merci.
Ça me fait grand plaisir.
Au revoir.
Au revoir.